Le journal Marie-Aimée Copleutre.
Bonsoir à tous. Dans ce journal, la France va-t-elle reconnaître le génocide des populations roms opéré il y a 21 ans, jour pour jour, à Auschwitz-Birkenau? C'est la demande des descendants de victimes dans une tribune publiée ce samedi dans le journal Le Monde. Un appel à ancrer cette date historique du 2 août. En Israël, portraits d'otages et familles drapées de noir rassemblés sur la place de Tel Aviv pour supplier l'émissaire américain Steve Witkoff d'accélérer le rapatriement de l'ensemble des otages. Nous irons également en Thaïlande où une manifestation est en cours pour soutenir l'armée en plein conflit contre le Cambodge. Le reportage de notre correspondante Juliette Chénion. Un événement qui a lieu tous les 25 ans, le jubilé de l'Église catholique, c'est cet été à Rome et le pape Léon XIV arrive ce soir pour une veillée avec 1 million de jeunes. C'était il y a 81 ans, jour pour jour, dans la nuit du 2 au 3 août 1944 en Pologne. 4300 Roms, gitans, Sintés, Manouches, Yéniches et voyageurs furent exterminés à Auschwitz-Birkenau. Pour cette date d'anniversaire, un collectif de descendants de victimes du génocide demande aux parlementaires français à faire du 2 août une journée nationale de mémoire, car la France, contrairement à son voisin allemand ou aux Nations Unies, ne reconnaît pas ce point d'orgue du génocide tzigane. Alors comment expliquer ce tabou français? C'est en partie lié au régime de Vichy, détaille Lise Foineau. Elle est anthropologue chargée de recherche au CNRS.
Je pense qu'il est nécessaire de rappeler qu'en France, les mesures antinomades, comme on disait à l'époque, ont été appliquées jusqu'à l'été 1946. Les Roms, les Manouches, les Sintis, les Yéniches, donc toutes les personnes classées comme nomades par l'administration française à cette époque, ont été internées et assigné à résidence pendant presque 2 ans après la libération. Et cette catégorie de nomades n'a pas été abrogée après la guerre. Au contraire, en juillet 46, le ministre de l'Intérieur demanda au préfet d'appliquer avec sévérité la loi de 1912 qui avait créé la catégorie de nomades et qui avait permis d'appliquer à ces derniers les politiques nazies. Déjà premièrement, et ensuite, après-guerre, donc tout de suite après ce que je viens de dire, les politiques publiques à l'égard des nomades puis des gens du voyage qui se sont appuyés sur l'absence de tout regard critique sur les persécutions de la guerre. En fait, personne n'a tenu compte du fait que les politiques publiques répressives d'après-guerre s'appliquaient à une population ayant survécu à un génocide. Et tout au contraire, la 4e et la 5e République ont cherché à tirer parti des méthodes mises en œuvre pendant la guerre. Et c'est cette continuité-là qui explique que la France ne commémore pas le 12 août en 2025. Donc ce n'est pas une omission ni un hasard, c'est la traduction de politiques publiques qui trouvent leur origine dans la France de Vichy.
Lise Foineau, interrogée par Jeanne Serrin. Et à la rentrée, pour renforcer cette requête, une proposition de loi transpartisane sera déposée par la députée écologiste Sandra Régol. Reconnaître la Shoah, l'objectif des responsables du camp d'Auschwitz qui ont développé cette semaine un nouvel outil pour lutter contre les propos négationnistes sur le génocide. À Varsovie, les précisions d'Adrien Sarla.
Le Zyklon B ne servait que pour désinfecter le camp, les cheminées du camp n'ont jamais fonctionné ou encore les crématoriums n'auraient jamais pu brûler autant de corps. Voilà le type de propos négationnistes de plus en plus décomplexés que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux et contre lesquels se battent les responsables du mémorial d'Auschwitz-Birkenau. Pour cela, ils ont développé un nouvel outil mis en ligne ce mercredi et intitulé « Stop Denial, stop au négationnisme en français ». Il s'agit d'un mode d'emploi des comportements à adopter face à un contenu qui nierait l'extermination systématique des Juifs européens par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le protocole est simple, lorsque l'on tombe sur ce genre de contenu, il suffit de se référer au site internet du mémorial qui apporte une réponse documentée toute prête aux arguments négationnistes les plus courants, que l'internaute ensuite n'a plus qu'à copier-coller. Une initiative nécessaire à l'heure où les témoins du génocide s'éteignent progressivement et que le conflit entre Israël et Gaza occasionne une recrudescence du discours antisémite sur les réseaux sociaux.
Adrien Sarla, correspondant de Radio France en Pologne. En Israël, manifestation de colère des familles des otages américains, aujourd'hui réunies autour de l'émissaire Steve Witkoff, venu apporter son soutien aux proches des Israéliens captifs à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Entouré de ses gardes du corps, lunettes de soleil sur le nez, Steve Witkoff a été interpellé par les familles venues en noir, brandissant de grandes pancartes de leurs proches sur la place des otages de Tel Aviv, rebaptisée ainsi après le massacre du 7 octobre. La correspondance de Michel Paul, RFI, pour France Culture.
Ramenez-les à la maison maintenant. Nous avons besoin de votre aide, s'écrient les familles d'otages et les nombreux manifestants au moment de l'arrivée place des otages à Tel Aviv de Steve Witkoff, l'émissaire de la Maison Blanche, sous les acclamations de la foule. Symboliquement, un camp entouré de barbelés a été installé sur la place à la suite de la diffusion de vidéos par le Hamas et le djihad islamique des otages Eviatar David et Rome Braslavski. Sur les images, les deux hommes apparaissent amaigris et visiblement très affaiblis. Le forum des familles d'otages dénonce des conditions de captivité inhumaines, des mots très forts d'Anna Tengrest, la mère de l'otage Matan Tengrest.
Nous visionnons ces dernières 48 heures des vidéos de l'Holocauste en couleur, une seconde Shoah qui se poursuit et se prolonge sous les auspices du gouvernement israélien. À l'époque, nous n'avions pas de pays. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Et selon le forum des familles, Steve Witkoff s'est entretenu pendant près de 3 heures avec les proches des otages et il a souligné l'engagement du président américain et le sien personnel à obtenir leur libération.
Michel Paul, RFI à Jérusalem pour France Culture. Des progrès limités pour Gaza sur l'aide humanitaire, alerte Berlin aujourd'hui après des premiers largages de vivres cette semaine et une reprise des livraisons par camion. L'armée allemande a livré 14 tonnes de nourriture, la France 40 hier, mais c'est insuffisant selon les ONG. En France, Médecins du Monde, Amnesty International, l'UNICEF estiment ces largages dangereux et dérisoires pour répondre aux besoins des Gazaouis affamés. Selon l'UNICEF, il faut plus de 62 000 tonnes d'aide vitale tous les mois pour nourrir les 500 000 habitants qui souffrent de famine. À Strasbourg, une manifestation pro-palestinienne interdite aujourd'hui. Le collectif Palestine 67 dénonce cette interdiction préfectorale. Alors qu'une marche devait se tenir, elle s'est transformée en rassemblement statique avec 250 personnes. Le tribunal administratif a confirmé cette annulation, estimant qu'il pouvait mener à des débordements car des personnes de la communauté juive résident dans ce quartier. Un mort et 5 mineurs bloqués sous terre depuis plusieurs heures au Chili dans la plus grande mine de cuivre du pays qui s'est effondrée hier après un séisme. Les 5 mineurs sont actuellement à 900 mètres de profondeur. Le lieu où ils sont enfermés a été identifié. Une centaine de secouristes sont sur place. Depuis la France, elle se dit soulagée. Florence Cassez a eu son ex-compagnon mexicain Israël Vallarta libéré hier après 19 ans emprisonné au Mexique. L'annonce a été faite par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Lui et Florence Cassez avaient été arrêtés en 2005, soupçonnés d'enlèvement et de trafic de drogue. Ils avaient été emprisonnés sans preuve ni jugement. Florence Cassez avait été libérée en 2013 après 8 ans dans les geôles mexicaines. En France, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, annonce se rendre en Nouvelle-Calédonie dès la semaine prochaine. Il l'a écrit sur son compte Facebook. Manuel Valls veut sauver l'accord de Bougival signé en juillet qui maintenait la Nouvelle-Calédonie en France. L'accord a été rejeté cette semaine par une partie du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, qui défend l'autonomie de l'archipel. Pour le président du FLNKS, Christian Théin, l'accord ne respectait pas les fondamentaux de la décolonisation ni les droits du peuple kanak. Christian Théin dénonce notamment la pression politique mise sur ce texte. Une saisie de drogue record en Polynésie française, se félicite le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau aujourd'hui. 1600 kilos de cocaïne, 230 kilos de méthamphétamine saisis sur un voilier à destination de l'Australie, intercepté aux îles Marquises alors qu'il venait du Mexique. Un circuit entre une Amérique du Sud productrice et une Australie consommatrice connue des douanes et des forces armées. Depuis le 24 juillet, les armées cambodgiennes et thaïlandaises s'affrontent. Le bilan s'élève aujourd'hui à 42 morts, 330 000 déplacés. Un cessez-le-feu a été signé lundi, mais l'accord ne semble pas tenir, chaque camp accusant l'autre de ne pas le respecter. Quelle issue peut-on espérer ? Pour l'instant, c'est la crainte d'une montée de nationalisme dans chaque pays. Aujourd'hui, à Bangkok, 2000 manifestants se sont réunis pour demander la démission de la première ministre. Les manifestants l'accusent de trahison nationale et la jugent incapable de gérer la gestion de la crise avec le Cambodge. Reportage dans le centre de Bangkok, Juliette Chignon.
Sous le monument de la victoire, éclairé en bleu, rouge et blanc, aux couleurs du drapeau thaïlandais, les représentants de l'opposition se succèdent à la tribune. Dans la foule, Charlem Chai, 65 ans, porte un polo jaune en soutien à la monarchie.
La première ministre a cédé les intérêts de notre pays au Cambodge. Sa conversation au téléphone avec le président du Parlement cambodgien, c'est une grave erreur. La Thaïlande appartient à tous les Thaïlandais. Nous, on aime nos soldats, on aime notre pays et on aime notre roi.
Petong Tarn, la première ministre suspendue, est l'héritière du clan Shinawatra, historiquement opposée à l'armée et aux élites conservatrices proches de la royauté. Le conflit territorial entre la Thaïlande et le Cambodge est donc l'occasion pour ses opposants, nationalistes ou royalistes, de demander sa démission, comme l'explique ce manifestant.
On déteste le gouvernement actuel. Nous, on soutient l'armée thaïlandaise. On ne voulait pas la guerre. Mais notre gouvernement, lui, n'a rien fait pour l'empêcher. Ça affaiblit notre image, l'image du pays.
Ce gouvernement n'avait pas besoin du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge pour être impopulaire. Les manifestants lui reprochent aussi la baisse du pouvoir d'achat. Et d'après un récent sondage, plus de 80% des Thaïlandais souhaitent voir ce gouvernement tomber.
Juliette Chignon, notre correspondante en Thaïlande. Sur le gazon de Tor Vergata, en périphérie de Rome, 1 million de jeunes serrés, rassemblés en ce moment pour accueillir le nouveau pape Léon XIV. Il arrive en hélicoptère dans moins de 2 heures pour célébrer la veillée du jubilé de l'Église catholique, un événement qui a lieu tous les 25 ans et qui rassemble les jeunes catholiques du monde entier. Un pan de la population qui intéresse particulièrement l'Église, qui se met à jour en invitant des influenceurs catholiques. Cette semaine, Xavier Sartre, le Vatican en a accueilli plus de 1000.
Communiquer la foi, l'évangile, le message du Christ dans la ligne de l'Église catholique à l'ère numérique. Voilà un enjeu de taille pour le Vatican dans les sociétés de plus en plus sécularisées d'Europe ou dans des territoires où la concurrence des évangélistes est forte comme en Amérique latine. Ils sont prêtres, évêques, religieux ou religieuses, simples laïcs, jeunes et moins jeunes. Ils viennent des 5 continents et tous ont relevé ce défi par goût, par affinité, jamais contraint. Qu'ils aient quelques dizaines de followers ou des dizaines de milliers, ils multiplient les contenus adaptés à leur public. Pour l'Église, c'est une force, un mouvement de la base. Mais dans une institution très hiérarchique où l'impulsion vient le plus souvent d'en haut, c'est une évolution qu'il convient de maîtriser. Pour le numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, qui est intervenu lors d'une conférence, être missionnaire sur les réseaux, c'est assumer le rythme, les blessures, les questions et les recherches de ceux qui habitent cet espace, sans céder à l'anonymat, à la superficialité ou aux tentations de se mettre au premier plan. Quant au pape Léon XIV, il a demandé aux influenceurs de réparer les filets, en référence à l'appel que Jésus avait lancé aux apôtres. Autrement dit, d'annoncer la paix au monde, d'être des agents de communion capables de briser la logique stérile de la division et de la polarisation. Promouvoir le message de l'Église, oui, mais le message doit toujours être dicté d'en haut.
Il est renvoyé devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine, le joueur de foot du club parisien, le PSG, Achraf Hakimi, suite à une accusation de viol d'une jeune femme âgée de 26 ans. Le joueur avait été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire en mars 2023. Le joueur nie les faits. En plein Tour de France femme, la gagnante de l'année dernière, la Bretonne Cédrine Kerbeal, brise le tabou sur la santé des coureurs. Elle dénonce la maigreur des cyclistes qui s'aggrave d'année en année, hommes et femmes confondus. Les médecins et nutritionnistes appuient cette prise de parole en évoquant de graves problèmes osseux, mais aussi psychiatriques induits par la perte de poids. Un œil à la voûte céleste ce soir pour contempler les pluies d'étoiles filantes, les perséides. Tout le week-end, c'est la nuit des étoiles. 550 manifestations sont prévues partout en France, la 35e édition. Eux sont plus loin dans le ciel. Les 4 astronautes américains, russes, japonais sont arrivés à la Station Spatiale Internationale ce matin. Ils avaient été envoyés dans l'espace l'espace avec la capsule Crew Dragon construite par SpaceX, la société d'Elon Musk. Succès pour cette mission, les astronautes vont rester 6 mois dans l'ISS, une mission où ils effectueront des scénarios d'alunissage dans le cadre du programme Artemis mené par les États-Unis pour retourner sur la Lune. La météo, le ciel sera dégagé ce soir. Les températures restent chaudes cette nuit entre 17 et 25 degrés. Demain matin, ce sera plein soleil sur la moitié sud, plus nuageux dans la moitié nord. 19 à Amiens, 20 à Lyon, 26 à Perpignan. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Caroline Beneteau, à la technique Anthony Thomasson.